Bonsoir chers auditeurs de Radio Courtoisie, bienvenue dans l'émission Magnificat. Cette semaine, après les lectures de l'Apocalypse lues toute cette semaine, nous écouterons le commentaire de Justina sur la petite Apocalypse de Saint Matthieu. Merci Justina.
De rien, bonjour.
Et bonjour.
Bonsoir.
Je dis bonsoir parce qu'il commence à faire nuit tôt maintenant.
Oui, donc, c'est vrai.
Alors nous entrons dans le temps béni de l'Avent, bientôt là, et donc en route pour Noël. C'est l'occasion pour chacun d'évangéliser passivement, ou pas, et d'offrir des ouvrages qui pourront en toucher certains. C'est pourquoi nous avons à nos côtés Aymeric Janson.
Bonjour.
Bonjour Aymeric. Vous êtes directeur des éditions de l'Emmanuel, qui nous a aidé à réaliser cette superbe bande dessinée sur certains miracles, qui sont de réelles raisons de croire et dont nous parlerons tout à l'heure. Voilà, nous avons édité cette BD dans le cadre de notre action sur les réalités de la foi chrétienne, qui est vraie, unique et incomparable. Alors, en attendant, Justina, cette petite révélation de Saint Matthieu, parlez-nous-en.
Oui, bon, je vais quand même commencer par lire le texte.
Oui, qui est assez long cette semaine. Donc, si vous ne voulez pas le chanter, enfin, je ne sais pas si on dit chanter, du reste.
Psalmodier. Oh, je vais continuer.
Eh bien, je sais que ça fera plaisir à nos auditeurs.
En ces temps-là, Jésus s'adressa aux disciples, « Lors donc que vous verrez l'abomination et la désolation dont a parlé le prophète Daniel installé dans le Saint-Lieu, alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes, que celui qui sera sur la terrasse ne descende pas dans sa maison pour prendre ses affaires, et que celui qui sera au champ ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur à celles qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite ne tombe pas en hiver ni en sabbat, car il y aura alors une grande tribulation, celle qui n'en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à ce jour, et qui n'aura jamais plus. Et si ces jours n'avaient pas été abrégés, nul n'aurait eu la vie sauve, mais à cause des élus, ils seront abrégés ces jours-là. Alors si quelqu'un vous dit « Voici le Christ est ici » ou bien « Il est là », n'en croyez rien. Il surgira en effet des faux Christs et des faux prophètes qui produiront des grands signes et des prodiges, au point d'abuser, s'il était possible, même les élus. Voici que je vous ai prévenu. Si donc on vous dit, le voici au désert, n'y allez pas. Le voici dans les retraites, n'y croyez rien. Comme l'éclair, en effet, part du levant et brille jusqu'au couchant, si serait-il de l'avènement du Fils de l'homme. Ou que ce soit le cadavre, ils sembleront les vautours. Aussitôt, après la tribulation de ces jours-là, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera pas plus la lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Et alors apparaîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme, et alors toutes les races de la terre se frapperont la poitrine, et on le verra le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire. Et il enverra ses anges avec la trompette sonore pour rassembler ses élus des quatre vents des extrémités des cieux à leur extrémité. Du figuier, apprenez cette parabole. Dès sa ramure devient flexible et que ses feuilles poussent, vous comprenez, l'été est proche. Ainsi, lorsque vous verrez tout cela, comprenez qu'il est proche aux portes. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera pas que tout cela soit arrivé. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Quant à la date de ce jour et à l'heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, personne que le Père seul. Alors, ce fragment est aussi appelé la mini-apocalypse selon Matthieu, même si ce n'est pas tout à fait juste comme titre, car le mot apocalypse est vulgairement associé à la fin du monde ou encore à la fin des temps, mais en grec, il signifie la révélation. Donc, on peut plutôt parler d'une certaine révélation eschatologique. J'ai déjà brièvement abordé le ressenti eschatologique dans notre émission du 10 novembre, mais j'aimerais approfondir un petit peu cette fois-ci. Ce texte est peut-être le premier et un des plus importants sur le sujet de la fin des temps pour l'Église du premier millénaire, car contrairement à ce qu'on peut penser, il était connu, cité et mentionné par les pères du premier millénaire et non pas l'Apocalypse de Jean. L'Apocalypse de Jean est le dernier livre à rentrer dans le canon biblique, au IVe siècle seulement pour l'Église de Rome. Sa réception en Orient s'éparpille entre le VIe et le XIIe siècle. À mes souvenirs, l'Église orthodoxe géorgienne ne l'inclut dans son canon qu'au XIIe siècle, justement. C'est les
derniers. Parce qu'il y a en plus des précisions au sein de l'Église orthodoxe, là, en l'occurrence, géorgienne.
Oui, enfin, c'est que la réception a vraiment été très, très, très tardive. Donc, il n'y a pas eu de canon biblique réellement unique pour tout le monde chrétien, que ce soit avant le grand schisme ou même après. Et qu'est-ce que ça signifie techniquement que malgré l'inclusion de l'Apocalypse dans le canon, ce n'est pas le livre d'Apocalypse qui sert réellement de référence dans l'eschatologie des églises qui ont un héritage apostolique. L'Apocalypse est très 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 peu lu, à ma connaissance, chez vous, à des moments très précis, là je pense que vous pouvez m'éclairer, mais dans la tradition orientale, il n'est jamais lu en liturgie. D'accord. Ce qui signifie, de ce fait, les évêques, les prêtres, n'ont pas à préparer leurs homilies sur ce texte. Et par conséquent, la réception de l'Apocalypse de Jean est formelle, en tout cas chez nous, mais sans une grande tradition d'exégèse. Mais je n'ai pas vu non plus beaucoup de traités d'exégèse sur l'Apocalypse dans le monde occidental, catholique romain, bien entendu. Et c'est vrai que quelque part, j'y vois une certaine ironie de destin. Ce livre, qui rentre dans le canon biblique avant tout grâce aux occidentaux, devient une pièce de choix chez les réformés et surtout chez les protestants radicaux qui poussent parfois leur lecture et leur ressenti apocalyptique à l'extrême en créant des sectes qui se figent sur l'atteinte de la fin.
Oui.
Imaginez seulement le monde d'aujourd'hui si on se contentait seulement de ce passage de Matthieu qu'on a lu. Il n'y aurait probablement pas d'adventiste du septième jour, pas de témoin de Jéhovah et j'en passe. Le passage d'aujourd'hui est à la fois très pertinent et juste et nous pousse à rester éveillés, mais suffisamment vague et ne pousse pas à la tentation de jouer au calcul des chiffres comme le 666 ou encore le nombre de générations avant l'arrivée de la bête de l'événement. Dans toute génération chrétienne, il y avait des personnes convaincues qu'elles étaient la dernière génération. Et cela fait maintenant 2000 ans.
Oui.
Est-ce que cela signifie que toutes ces personnes étaient idiotes ou que le Christ a menti? Pas du tout. Le rapport saint à ce monde est le rapport comme si c'était vis-à-vis d'une gare. On y passe un moment sympa, chacun a sa valise, on peut y faire des belles rencontres, il ne faut pas commettre d'incivilité, mais on ne cherche pas à s'y installer avec une tente, car le train reste essentiel. Mais il ne faut pas non plus avoir peur du train, il suffit juste de ne pas s'allonger sur les rails et éviter de pousser les voisins. J'ai volontairement ajouté le verset aussi 36 à la lecture, car il est souvent utilisé dans les débats contre les chrétiens, par je dirais pas qui, pour soutenir l'idée selon laquelle ce verset prouve la non-divinité de Jésus-Christ. Alors, bien sûr, on peut sortir l'artillerie lourde et contre-argumenter de manière longue et complexe en évoquant les deux natures en Christ. On peut parler de la kénose, l'auto-humiliation du Dieu pour laisser la place à l'humain. Mais je pense qu'il y a un argument beaucoup plus simple qui explique ce verset. Si Jésus-Christ devait donner une date concrète, tout le discours perdrait son sens de nous maintenir éveillés. Si la date annoncée était trop proche, et comme nous le voyons, ce n'est pas le cas, les personnes qui l'écoutaient se seraient affolées pour rien, et de plus, ce serait un mensonge. Le Christ ne ment pas. Une date trop lointaine, cela vous ferait quoi de savoir que le soleil va exploser dans je ne sais combien de milliards d'années?
Alors on l'entend dire.
Oui, mais probablement ça vous fait rien.
Rien du tout.
Vous allez vous détendre.
C'est trop loin pour que ça me stresse.
Voilà. Sans oublier qu'on peut aussi déduire que la fin des temps n'a pas de date fixe et qu'il ne sert strictement à rien de sortir les calculettes, mais c'est une probabilité qui va se produire en fonction de l'état de l'humanité. N'oublions pas que si le royaume des cieux est en nous, c'est-à-dire qu'il commence dans le « ici et maintenant », et jusqu'à ce que cette bifurcation entre l'éternité et l'espace-temps, la durée de cette bifurcation dépend aussi de nous.
Merci beaucoup, Justina. Très intéressant comme toujours. Alors à présent, nous allons écouter le Cantique de l'Apocalypse par les moines de l'abbaye de Tamiers.
Toi qui créas l'univers. vous appréciez cette émission, alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Rebonjour Aymeric.
Rebonjour.
Alors, comme je le disais, vous êtes directeur des éditions de l'Emmanuel et heureusement pour nous aussi, conseiller pour divers éditeurs et en l'occurrence pour l'association Marie de Nazareth et Mille Raisons de Croire. Vous nous avez aidé à sortir une BD, une bande dessinée sur les miracles. Alors tout d'abord, avant de parler de ce livre, j'aimerais que vous nous parliez du marché du livre. Pourquoi ? Parce qu'en préparant cette émission, je vous demandais si c'était un secteur sinistré. Car on a l'impression que moins de gens lisent et au joie, vous me disiez qu'il reste encore de nombreux lecteurs.
Absolument. Alors la question est un peu complexe parce que justement, je lisais encore hier un papier sur le sujet, sur le monde du livre en général, qui annonce avec un peu des tremblements dans la voix une baisse quand même de 3% du chiffre d'affaires du livre en année courante. Mm-hmm. Donc c'est quand même un secteur qui est soumis à tension et qui, comme vous le savez, a vécu un petit peu d'abord des forts hauts et donc un peu un retour à la vie réelle autour du Covid et toute cette histoire de la librairie, des librairies à sauver, etc., etc., des biens culturels qu'il fallait privilégier sur le reste. Donc en fait, on est un petit peu dans les remous autour de cette grosse hausse qui a suivi un peu un retour à la vie normale. Malgré tout ça, si on essaye de prendre un peu de hauteur, ce qui est intéressant, c'est que j'en témoigne et je pense beaucoup de gens autour, on peut voir qu'on arrive vraiment à maintenir un niveau, alors pour nous, éditeurs, de vente de nos livres, mais c'est-à-dire en fait un niveau de consommation important sur ce qu'on va proposer comme livre à nos lecteurs, que ce soit des adultes ou que ce soit des jeunes, des enfants, des adolescents, avec néanmoins des changements d'habitude de lecture qui, eux, sont à noter, et notamment au contact de tout ce qui est réseaux sociaux, un besoin de contenu qui soit peut-être moins épais, des livres qui fassent un peu moins peur en pagination. Oui. Encore que ce serait, vous voyez, par exemple, pour les adolescents et les romans, ça leur fait pas trop peur, mais voilà, il y a certaines zones de lecture sur lesquelles on vise quelque chose de plus léger. Et puis dans les approches aussi, souvent des approches plus parcellaires, plus faciles à lire que des chapitres très longs, on va viser des choses un peu plus zap, etc., etc. Mais globalement, vraiment, il reste des lecteurs. Je voulais rassurer vos auditeurs là-dessus.
Bonne nouvelle. Alors, vous me disiez que le marché de la bande dessinée est florissant.
Oui, absolument. La bande dessinée, en fait, est vraiment une des locomotives de l'édition en France. Oui. C'est lié à beaucoup de paramètres, mais aussi au fait que on a une tradition de la bande dessinée en France. Alors, souvent, on pense évidemment à l'école belge.
Oui.
Qui a été la grande, dans les des années 60, à la fin des années 90, l'école classique belge, Ligne Claire, Tintin, Astérix, etc., a vraiment irrigué quasiment toutes les familles en France. Hein.
Oui.
On a tous, dans les maisons
on
de parents,
on en a tous à la maison, oui.
Exactement, des collections plus ou moins complètes. Et en fait, ça a créé un terreau créatif très important qui fait qu'on est une espèce d'Eldorado, en fait, en France, pour notamment tous les auteurs européens. Et donc, il y a une tradition du récit en images, vraiment de la bande dessinée, c'est-à-dire de la fusion du texte et du dessin. Il y a une tradition qui, pour nous, est vraiment très, très ancrée et qui demeure très puissante. Et donc, aujourd'hui, on y ajoute le manga, évidemment, dont vous avez forcément entendu parler de près ou de loin, qui est un phénomène, pour le coup, importé du Japon, de Corée, un petit peu de Chine, essentiellement du Japon, en tout cas, à l'origine.
Oui, manga, ça veut dire bande dessinée en japonais.
Absolument, image animée en japonais, ouais, exactement, et qui est le produit en fait de ce que la rencontre entre texte et image peut donner dans la culture japonaise, qui elle-même rencontrait la culture américaine, parce que en fait ce qu'on voit pour beaucoup en fait est le produit de la rencontre entre le produit de l'occupation américaine après 45 et donc la mise sous tutelle du Japon par les États-Unis vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, et la culture japonaise quand on fusionne les deux. Puis dire, on mélange tout ça dans une marmite et ça nous donne le manga tel qu'on le connaît aujourd'hui, ce qui est assez étonnant.
Alors, vous avez opté avec notre responsable d'édition, que je salue, Jean-Paul Mongin, pour cette formule de la BD chez Marie de Nazareth, et donc sorti le tome 1 d'une grande collection à venir, j'espère. Donc, nous abordons sous forme de planche le thème des miracles. Le choix fut sans doute difficile, car reconnaissons qu'il y en a de nombreux. Et vous précisez bien au début de l'ouvrage que tous les miracles dont vous faites part dans cette BD sont des faits historiques attestés et documentés, donc reconnus par l'Église. Et nous verrons de toute façon les fruits de ces miracles dans de nombreux cas. Alors, commençons. Alors déjà, comment avez-vous fait votre choix ?
Ça, c'est une très très bonne question. Question épineuse, hein. C'est très difficile de choisir. Je dirais que ce qui nous a aidé à faire un choix, c'est d'abord que le principe de cette bande dessinée, c'est que certains épisodes étaient repris dans le magazine « Mille raisons de croire ». Donc en fait, à partir de là, il fallait choisir certains épisodes en fonction des autres informations, des autres articles, des autres rubriques qui étaient celles d'un magazine. Donc en fait, ça nous amenait quand même vers certaines thématiques, certaines époques, etc. Alors que le reste des à peu près 5 d'un côté, en fait ça fait 12, hein, donc 7 et 5, il y en a 5 qui ont été pré-publiés, qui sont passés dans le magazine, et 7 qui ont été réalisés directement pour la bande dessinée et carton, papier. Et donc en fait, on a pu, d'un côté répondre à un faisceau de cohérence lié au magazine, et de l'autre essayer de compléter en cherchant des choses à la fois qui soient proches de nous ou qui soient plus lointaines, des choses aussi qu'on connaisse, en tout cas que beaucoup de gens connaissent, et d'autres qui sont beaucoup moins connues.
Oui.
On a essayé vraiment de faire un panaché de tout ça pour essayer de rendre compte de cette réalité du miracle qui, évidemment, interroge vraiment notre foi. Hein. Mais comme vous l'avez dit, avec un gros travail de documentation et de sources, c'est juste 4 pages à chaque fois, donc ça va
assez vite,
4 planches, comme on dit en BD. Mais il y a vraiment eu un très gros travail, notamment d'Alexandra Garibal, qui est la scénariste, et qui s'est beaucoup documenté pour ça. Voilà.
Alors, nous allons évoquer les larmes de Syracuse. En 2023, donc très récemment, le pape François a évoqué, hein, pour les 70 ans de l'anniversaire des lacrymations, qu'il voyait en ses larmes la manifestation de la présence et de la compassion de la Vierge Marie. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de larmes ?
Eh bien, pour les larmes de Syracuse, c'est... C'est un miracle vraiment étonnant. Ils le sont tous, en fait.
Oui.
Hein, mais celui-là nous touche aussi parce qu'il n'est pas très éloigné dans le temps. C'est un miracle qui s'est produit en Italie. Je n'ai plus la date exacte en tête, mais pour moi, on est dans la première moitié du XXe siècle,
si
je ne me trompe pas.
Oui.
Il s'agit d'une famille, d'un couple en fait en difficulté avec une grossesse qui est complexe, qui se passe pas très bien. Et puis au-dessus du lit de ce couple, en fait, il y a une icône de la Vierge, et cette icône va se mettre à pleurer. Voilà, il va y avoir un liquide en fait qui s'épanche de l'icône et plusieurs fois, alors que le couple se met en prière et traverse cette situation dans la foi. Et évidemment, ça va créer, à mesure que ça va se connaître, un attroupement sous les fenêtres. Les lacrymations vont se poursuivre un certain nombre de fois et sur plusieurs jours. Et selon tous les experts, les scientifiques qui se sont penchés sur la question, finalement, aboutissent à dire qu'on ne comprend pas scientifiquement ce qui se passe.
Oui.
Dans la mesure où, on a par exemple travaillé sur le support, l'icône elle-même, qui en fait est un support qui a été industrialisé, donc dont on trace sans difficulté en fait l'endroit d'où ça vient, l'origine, etc. Et voilà, il n'y a rien à chercher de ce côté-là. Il n'y a bien évidemment pas de trou dans le mur, il n'y a pas de pompe pour apporter de l'huile, enfin voilà. On se heurte vraiment à l'inexplicable, mais c'est ce qui est intéressant. Cet exemple de Syracuse, justement, est un bon exemple. C'est qu'en fait, cette étude par la raison rencontre à un moment donné le même chemin qui doit être fait dans la foi, pour se demander, indépendamment du prodige, qu'est-ce que ça dit à notre, oui, à notre foi, de la manière dont Dieu nous aime. Et pour chaque miracle, en fait, on a une façon différente dont Dieu nous tend la perche pour nous montrer qu'il nous aime. Et dans des époques très différentes, des thématiques très différentes, des détresses, ça répond à des détresses qui sont elles-mêmes très différentes, etc.
Alors, Padre Pio, à présent, il y a tant de choses à dire. Vous avez choisi le thème de la résurrection, donc avec ce petit Luigi Genai, et puis celui de petit Francesco, et surtout celle du père Jean Desrobert, alors qui n'était pas père à l'époque. Est-ce que vous pouvez nous parler de Jean Desrobert ?
C'est peut-être une des histoires les plus incroyables, hein, vraiment, de ce qu'on a reprise, en tout cas dans cette bande dessinée. Jean Desrobert, qui était séminariste, en fait, a été appelé sous les drapeaux pendant la guerre d'Algérie.
Est-ce qu'il était déjà séminariste lorsqu'il était en Algérie?
Alors, il me semble qu'il était... bonne question. Est-ce qu'il était déjà séminariste ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, il était déjà proche de Padre Pio.
Oui.
Qui en avait fait un petit peu un de ses fils spirituels. Qu'il avait une... Il avait une grande amitié, une grande proximité spirituelle avec Padre Pio. Et donc, en fait, appelé sous les drapeaux, il rejoint un contingent et notamment un petit groupe de soldats qui est fait prisonnier, en fait, par le FLN et qui est, en fait, est exécuté. Donc, lui-même reçoit plusieurs balles comme tous ses camarades. Et il va vivre ce qu'on appelle aujourd'hui une NDE, une Near-Death Experience.
Une expérience de mort imminente.
Exactement, une expérience de mort imminente. Il raconte que... il s'est senti en fait monter progressivement, aspiré par une source de lumière, et qu'en fait ensuite, il est redescendu, c'est-à-dire qu'il a réintégré son corps, et que à sa grande surprise, ses vêtements étaient troués de balles, tous ses camarades étaient morts autour de lui, mais sur son corps lui-même était totalement indemne. Voilà, c'est une personne, c'est un conte, c'est incroyable. Bah, c'est une personne qui a vraiment vécu, qui était chapelain du Sacré-Cœur de Montmartre, que mes parents ont bien connu. Voilà, c'est vraiment une personne de chair et de sang, quoi, avec un fort caractère, vraiment une carrure de parachutiste, quelqu'un qui était assez incroyable. Et voilà, et en fait, c'est un des prodiges en fait réalisés par Padre Pio. Pourquoi est-ce qu'on le relie à Padre Pio? C'est que d'abord, c'est ce que fait le père de Robert, bien sûr. On ne se serait pas permis de l'attribuer à Padre Pio si lui-même n'en avait pas parlé. Et donc en fait, Padre Pio a prié pour lui tout le temps de son passage en Algérie. Et particulièrement à ce moment-là, juste avant de mourir, je mets des guillemets, mais en tout cas, le futur père de Robert s'en serait remis vraiment à Padre Pio. Voilà, ce serait l'effet de la prière du saint.
Et alors, ce qui est très amusant, c'est que Padre Pio et le père de Robert ont une conversation. Et Padre Pio lui dit « Oh, ce que tu as pu me faire courir, toi, mais ce que tu as vu, c'était très beau. »
Effectivement, comme suggérant que, donc ça s'est passé évidemment après, une fois qu'ils se sont revus, suggérant que Padre Pio avait,
était là.
A été en connaissance complète de ce qui s'est passé, comme s'il avait vécu lui-même ce dont le père de Robert a témoigné plus tard. Il y a en fait on peut retrouver sur YouTube un petit bout de film de témoignage du père de Robert qui raconte ça. C'est vraiment quelque chose qui est très émouvant.
Voilà. Oui, je vous invite à le faire parce que c'est déjà, il est très agréable à écouter. Il est très drôle et il raconte tout ça avec beaucoup de simplicité. Alors, il nous reste très peu de temps. J'aimerais terminer avec Saint-Charbel et puis l'opération de Noad. Ça, c'est complètement sidérant. C'est stupéfiant. C'était en plus en 1993, donc hier, cette femme qui avait... dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, très rapidement, s'il vous plaît.
Oui, très vite. En fait, Noad est une femme qui n'est plus toute jeune, en fait, qui vit dans un milieu très simple, qui est dans un appartement au Liban, avec son mari et deux de ses fils, je crois. Et en fait, elle va faire un accident cardiaque qui correspond en fait au fait qu'une partie des veines, des artères en fait qui amènent le sang au cerveau va se boucher. Et donc elle fait un très grave accident. Elle est évacuée à l'hôpital et elle est reçue par un médecin qui finalement lui fait comprendre que d'une part il peut pas faire grand chose et d'autre part de toute façon l'opération coûterait beaucoup trop cher. Donc elle retourne chez elle. Elle vit au lit, elle ne peut plus bouger, elle a perdu une grande partie de sa mobilité. Et en fait, un de ses fils va prier pour elle, Saint-Charbel, et lui ramène un petit peu de terre qu'il a pris à côté du tombeau de Saint-Charbel. Et cette femme va témoigner qu'une nuit, elle se réveille et elle aperçoit Saint-Charbel et un autre moine qui sont dans sa chambre et qui lui parlent et qui vont en fait pratiquer sur elle l'opération que le médecin lui-même ne pouvait pas faire.
Oui.
En lui imposant les mains. Donc elle témoigne qu'elle a eu d'abord mal, elle a eu chaud, et que ensuite, à la suite de tout ça, je laisse le lecteur rentrer dans le petit récit, mais elle s'est réveillée et elle s'est rendue compte qu'elle pouvait boire toute seule, ce qu'elle ne pouvait pas faire, elle ne pouvait plus faire depuis l'accident. Et puis surtout, ensuite, elle s'est levée pour aller retrouver son mari qui était dans le salon. Lui-même est tombé dans les pommes en la voyant arriver comme ça. Et ce qui est magnifique dans la fécondité du miracle, c'est qu'en fait, Saint-Charbel lui a demandé une fois par mois de faire dire une messe en fait à son intention, de manière à essayer de rouvrir les vannes de toute la, enfin de ramener les gens en fait autour de l'Eucharistie, Et cette femme y est allée d'abord avec ses proches, et en fait ça a grossi. Cet événement existe toujours,
oui.
Et quelque chose qui rassemble des dizaines de milliers de personnes.
Et alors, j'invite nos auditeurs à découvrir quelque chose d'extraordinaire. Je ne vais pas vous donner cette information parce que c'est sidérant, mais elle avait une cicatrice et vous verrez l'histoire de cette cicatrice. Merci infiniment, Aymeric. Ça m'a fait très plaisir de vous entendre. Bravo, parce que vous avez accompagné un bel ouvrage que j'invite tous nos auditeurs à offrir à Noël, à vos enfants, vos petits-enfants, vos neveux, vos nièces, vos filleuls. C'est magnifique. Et puis, à d'autres adultes aussi, bien sûr. Et j'ai un cadeau. Quand je vous verrai, j'ai de l'huile de Saint-Charbel pour vous.
Génial.
À très bientôt. Merci beaucoup, Aymeric. Et puis, merci, Justina. Bonne semaine.